voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisines aujourd'hui, journée consacrée aux droits des femmes. Et nous accueillons la comédienne Aïssa Maïga, rédactrice en chef de RFI pour cette journée. Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour.
Ça y est, j'imagine que vous connaissez bien les locaux, vous êtes un peu chez vous, à la maison.
Bienvenue dans le salon.
Et vous êtes venue d'ailleurs dans ce salon accompagnée de trois femmes, trois militantes qui chacune à leur façon se retrouvent dans l'afroféminisme, ce féminisme des femmes noires, notre sujet du jour. Ces femmes qui vivent à la fois le racisme et le sexisme. Bonjour Mrs. Roots.
Bonjour.
C'est votre pseudo de blogueuse, hein. Vous vous appelez Lauranen Safou, de votre vrai nom dans la vraie vie. Vous faites partie des grandes figures de cet afroféminisme en France. Bonjour Diaria Toukébé.
Bonjour.
Vous publiez Maman Noire et Invisible, un livre qui retrace votre maternité en tant que femme noire, on y reviendra. C'est Attendre un enfant qui vous a sensibilisé à ce féminisme-là, cet afroféminisme.
Tout à fait.
On en reparlera. Et bonjour Roxane.
Bonjour.
Vous êtes libraire, vous avez ouvert l'une des rares librairies afro ou afro-militantes, dirons-nous, en région parisienne. Alors je crois que vous vous connaissez hein, toutes les trois. Le monde de l'afroféminisme n'est pas si grand. Merci en tout cas à toutes d'être avec nous en compagnie d'Aïssa Maïga, dont la douce voix nous accompagne toute la journée sur RFI. Et vous, les voisins et les voisines particulièrement, on aimerait vous entendre, hein, les voisines. Que pensez-vous de cet afroféminisme? Quel combat, quelle discrimination pour les femmes noires aujourd'hui en France et ailleurs? Et puis, si vous vivez sur le continent africain, vous sentez-vous féministe? Et ce, même si vous êtes un voisin, c'est possible aussi. Racontez-nous votre engagement, vos luttes, vos espoirs pour les femmes au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, vous pouvez continuer de nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et vous pouvez aussi retrouver notre dossier spécial consacré à cette journée internationale des femmes sur notre site internet rfi.fr. Et déjà sur Facebook, les messages affluent, de jolis messages d'ailleurs. Un voisin suggère à RFI de vous recruter, Aïssa Maïga. Je crois qu'il aime bien votre voix.
C'est gentil.
On a aussi un poème écrit par Yayami à Dakar. Alors je vais vous en lire un extrait. Je veux rendre hommage à toutes les femmes et à la féminité aux mille charmes. Les hommes sont si fragiles devant ces beaux êtres qui les désarment. Pour la journée des femmes, je veux leur déclarer ma flamme, qu'elles soient maman, amante, maîtresse ou grande cheftaine. Elles sont lumière et sagesse et soulage nos peines. De belles rimes, n'est-ce pas?
Très beau.
Je vous en ai lu qu'un extrait. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce poème sur notre page Facebook. Maxime est à Maroua, dans le nord du Cameroun. Alors lui est un peu moins dans le registre de la poésie. Il nous écrit: on parle des femmes qui se déshabillent pour revendiquer leurs droits. Ah ah ah, la femme ne doit pas être l'égale de l'homme. Chacun a sa place. Alors un avis qui lui appartient.
Pardon, excusez-moi.
Et qui vous fait rire, Aïssa Maïga.
C'est énorme.
En effet.
Le retour de Cro-Magnon.
C'est assumé en tout cas. Pierre nous écrit lui: l'afroféminisme, c'est l'envie d'égalité entre les hommes et les femmes, quelle que soit leur couleur de peau. Être femme noire aujourd'hui, comme dans le passé, c'est une lutte. Je me sens féministe et je n'ai pas honte. Il faut une réelle égalité, un même accès à l'emploi, un revenu égalitaire, etc. Et puis il nous dit bonne fête. Un lapsus révélateur, bonne fête à toutes les femmes du monde. Et je termine par le message d'un autre voisin, Amadou à Bangui, qui nous dit lui qu'il sera dans sa cuisine aujourd'hui, en cette journée des femmes, pour préparer à manger. L'afroféminisme n'est pas un mouvement nouveau, Lauranen Safou. Alors de quand date-t-il?
Alors en fait, ça dépend duquel parle-t-on, mais si on s'intéresse à l'afroféminisme en France, il avait déjà commencé avec la coordination des femmes noires dans les années 70, notamment. Bien sûr, il s'inspire aussi des mouvements du black feminism aux États-Unis, où donc, même si on retient beaucoup de grandes figures, elles n'étaient pas les seules.
Mais, avec Angela
voilà,
Davis, notamment.
Angela Davis, Bell Hooks, Alice Walker. Et surtout, en plus du militantisme, il y avait toutes ces figures de la littérature de la féminine noire qui ont contribué. Mais on peut aussi le remonter, en tout cas en France, aux sœurs Nardal, dans les années 30, qui donc étaient les deux sœurs qui ont notamment permis la rencontre des grands auteurs de la négritude, comme Césaire ou encore Senghor.
Donc ça remonte, même si on en parle depuis peu dans les médias français, ça remonte à plus longtemps. Nous sommes en ligne avec une voisine, Tatiana, à Cotonou, au Bénin. Bonjour Tatiana.
Bonjour Charlie.
Alors on vous écoute.
Bon, pour moi, aujourd'hui, je pense beaucoup plus à la femme, mais dans le sens des combats qu'elle mène, des combats par rapport aux violences qui sont faites à la femme, combats par rapport à la dignité de la femme, et un peu de tout ce qui se dit. N'a déplaise à ceux qui pensent qu'on répète les mêmes choses. Et parlant de l'afroféminisme, c'est quelque chose de pratiquement nouveau pour moi.
C'est nouveau pour vous.
Je ne sais pas que ça se fait, mais c'est peut-être... question de priorité, mais je n'en connais pas grand-chose.
Mmh, vous voulez savoir ce que ça voulait dire? Ça ne vous parle pas tout à fait, vous qui êtes à Cotonou. Merci Tatiana pour cette interrogation, Laurent Safou. Alors, qu'est-ce que c'est l'afroféminisme?
L'afroféminisme, c'est tout simplement un mouvement de lutte qui donc se centre sur les violences et les oppressions que subissent les femmes noires dans un contexte occidental. Pour le cas ici, on parlera donc surtout de la France, mais donc surtout sur toutes les facettes qu'elles rencontrent. C'est-à-dire que certes, il y a cette mise en avant des luttes qu'elles peuvent subir en étant une femme et noire dans un contexte occidental, mais aussi par rapport à leur religion, si elles subissent de l'islamophobie, si elles subissent aussi des discriminations par rapport à leur orientation sexuelle. Voilà, l'afroféminisme a quand même une démarche qu'on dit intersectionnelle, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'intersection de ces facettes.
Aïssa Maïga, quel regard vous portez sur ce militantisme-là?
Bah, en fait, d'abord, ce qui me frappe, c'est que pendant longtemps, l'idée du féminisme, c'était l'idée que c'était des femmes blanches, qui d'ailleurs ont mené un combat très important en France. Et du coup, ça a quand même donné lieu à un féminisme qui était fait d'une certaine subjectivité due à leur expérience particulière de femmes blanches en France. Mmh. Et là, aujourd'hui, il y a l'émergence d'une nouvelle génération qui, d'abord, a cessé de se taire. Nos mères ou nos grands-mères en France, parfois, ont eu tendance à vouloir faire profil bas, à ne pas vouloir déranger, avec le syndrome de l'immigré qui était, voilà, qui ne voulait surtout pas faire de vagues. Et aujourd'hui, ces populations issues de ces gens qui sont arrivés dans les années 60, 70 ou 80, elles se considèrent comme étant totalement françaises et elles vivent une expérience particulière. Et il me semble que des femmes qui vivent l'expérience en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que femme noire musulmane, etc., la liste peut même être rallongée, elles ont un apport considérable à apporter dans toutes les luttes féministes, parce qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas un ensemble homogène. Ce n'est pas un ensemble monolithique. On est obligé, les sources d'oppression sont tellement énormes, tellement multiples, qu'on est obligé de mener des luttes parfois sur des fronts très particuliers. Mmh. Et toutes ces luttes-là ont autant d'importance les unes que les autres pour contribuer à l'avènement d'une nouvelle ère qu'on espère vivre, qui sera une ère totalement paritaire dans laquelle on n'aura peut-être plus besoin, enfin bon là je rêve, de lutter.
D'où l'importance en tout cas de cet afro-féminisme. Laurent Safou, vous racontez avoir vécu une expérience qui vous a marqué quand vous étiez enfant, qui a peut-être aussi forgé votre conscience de militante. Vous nous racontez?
Oui, en fait c'est lorsque j'avais 12 ans, donc j'étais avec ma mère dans un magasin de vêtements, et donc ma mère était avec moi et mes frères et sœurs, nous sommes quatre, et nous avons été suivis par un vigile. Donc ma mère l'a remarqué, et donc voulant vérifier que ce n'était pas une hallucination, elle a fait le tour du magasin pendant 30 minutes voire 40 minutes pour être sûre de voir, enfin le vigile était vraiment genre juste derrière nous en fait à chaque fois, c'était vraiment flagrant, et au bout de ces 30 minutes ou 40 minutes ma mère est allée voir ce vigile. Et donc elle l'a engueulé, elle lui a dit qui est-il en fait pour juger déjà de son compte en banque, puisque évidemment ma mère c'était, disons-le très clairement, la négresse avec une famille nombreuse qui forcément allait forcément voler, ou du moins n'avait pas de quoi...
Dans le préjugé,
voilà,
de,
dans le préjugé en
ce
fait,
vigile.
Voilà, de ce vigile. Et voilà, qui est-il pour en fait pour la juger, qui est-il pour la juger sans la connaître en fait. Et je me rappelle donc avec mes yeux de petite fille de 12 ans, d'avoir vu donc la majorité des familles qui étaient là, donc pour la majorité des familles blanches, regardaient ma mère crier sur le vigile, comme cette espèce de angry black woman, comme on dit, cette espèce de préjugé de la femme noire qui hurle et qui est forcément une sauvage et qui est toujours trop en colère, qui se fait trop remarquer. Et j'ai eu honte avec mes yeux de 12 ans. Mais, voilà, mais,
vous avez eu honte de votre mère
à ce moment-là. J'ai eu honte parce que j'avais finalement déjà intégré le fait qu'il fallait faire profil bas, qu'il ne fallait pas se faire remarquer, qu'il peut-être elle aurait pu faire autrement, etc. En fait, très jeune, on intègre finalement tous ces codes. Et lorsqu'on est sorti du magasin, donc ma mère s'en est rendue compte et elle m'a demandé voilà, si j'avais honte d'elle. Et avec mes mots, je lui ai fait comprendre que peut-être qu'elle aurait pu aborder la chose différemment. Peut-être qu'elle s'était trompée, etc. Parce que c'est rassurant pour un enfant de se dire qu'on s'est trompé plutôt que de se rendre compte du racisme en fait en général. Et souvent, comme je dis souvent, elle m'a dit qu'elle s'en fichait et qu'elle continuerait à crier pour ses droits parce qu'elle est dans son droit, tout simplement.
Et puis vous l'avez suivi.
Et voilà, et finalement, c'est moi qui me retrouve à crier aujourd'hui.
Diariatou, Kébé, ça vous parle ce type d'expérience?
Oui, tout à fait. Moi, quand je suis tombée enceinte, la première des questions, c'était de savoir comment j'allais faire pour parler du racisme à mon futur enfant. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas... La question, elle est très peu abordée, voire pas du tout, alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de très... on en parle, en fait. Alors qu'en France, ça reste quand même un tabou de parler du racisme que peuvent vivre les enfants. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici. Des expériences racistes, j'en ai eu quelques-unes et elles sont marquantes. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas transmettre à mon enfant et surtout, je voulais lui donner des clés pour arriver à s'en sortir.
Et vous le racontez dans votre livre « Maman noire et invisible ». Vous réalisez rapidement, lors de votre première grossesse, qu'aucun livre lié à la maternité ne s'adresse à vous en tant que femme noire, future maman noire.
Oui, voilà. En fait, je suis allée à la FNAC et j'ai vu ce rayon dédié à la maternité et la puériculture où toutes les couvertures, c'est des mamans blanches, des futures mamans blanches. Et rien du tout, il n'y avait aucune photo de maman noire.
Et ça vous a marqué?
Ça m'a marqué terriblement.
Vous avez décidé d'écrire un livre d'ailleurs à ce sujet.
Oui, c'est d'abord parti d'un blog que j'ai tenu, que je tiens toujours depuis 6 ans. J'ai commencé à raconter la maternité, mais vu du point de vue d'une femme noire. Et ensuite, j'ai eu de la chance. J'ai été contactée par une maison d'édition pour en faire un livre.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Et nous sommes en ligne avec une autre voisine, Nina. Bonjour Nina.
Oui, bonjour Charlie. Bonjour
à nos invités. Vous êtes à Paris, je crois. Alors que voulez-vous nous dire sur ce sujet ?
Alors, concernant l'afroféminisme, en fait, moi, je tenais à souligner en fait, qu'il y a eu une très, très, très grande évolution. Parce que moi, en fait, à l'époque, quand j'avais 15 ans, donc, très, par exemple, dans les magazines, donc je faisais tout ce qui était jeune et jolie ou 20 ans.
C'était à quelle époque
Alors, actuellement, j'ai 31 ans, donc c'était aux alentours des années 95-2000, quoi. Donc, il n'y avait vraiment rien pour les jeunes filles noires dans les magazines. Et pourtant, ce n'était pas faute de chercher, quoi. Mais je ne me retrouvais pas là-dedans. Et il a fallu, en fait, que je m'oriente vers des magazines afro-américains pour essayer de voir voilà, des femmes qui me ressemblaient en termes de conseils de beauté ou même de coiffure, même si à l'époque encore, c'était le défrisage qui était privilégié. Donc, moi, ce que je trouve de positif, en fait, c'est que pour les futures générations, donc... Les petites sœurs, les cousines, aujourd'hui, elles ont des exemples positifs et c'est extrêmement important, quoi.
Comme Aïssa et Maïga, qu'on voit
exactement
dans le cinéma.
Oui, voilà, par exemple, ou alors comme les blogueuses Fatou de Black Beauty Bag ou plein d'autres encore. Hein. Donc, c'est très, très important et bravo, en fait. Hein. J'espère que ça va continuer encore.
Oui, ces femmes, en fait, ont aussi investi Internet, les blogs, pour s'exprimer. Merci, en tout cas, Nina, pour votre témoignage. Aïssa, Maïga, qu'est-ce que ça fait d'être une figure comme ça, qui est aussi un modèle de représentation
ça,
des femmes
noires
en France?
Ça, c'est aux autres de le décider. Moi, je ne me considère absolument pas comme un modèle. J'essaie de mener ma vie du mieux que je peux, de mener mon parcours de comédienne du mieux que je peux. Ça fait 20 ans que j'ai commencé. Donc, c'est vrai que ce que racontait cette auditrice française, parisienne, c'est quelque chose que j'ai connu. Quand j'ai démarré, il n'y avait pas de comédienne noire, il n'y avait pas de représentation, il n'y avait quasiment aucune présentatrice à la télé, aucune... Enfin, c'était vraiment un désert. Et il y a une chose qui a changé la donne, c'est l'émergence des réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, moi, quand je parler de ces problèmes-là, j'avais vraiment l'impression de prêcher dans le désert. Quand j'en parlais à des journalistes, ils me regardaient avec des yeux tout ronds en disant « Mais comment ça, non ? Il n'y a pas de racisme en France !» Mais on me le disait. Alors qu'il y a eu quand même un faisceau de raisons qui ont fait que la perception de la société dans sa globalité a changé. Que ce soit les révoltes en banlieue, que ce soit la question de la présence des minorités visibles, comme on les appelle. Il doit sans doute y avoir des meilleurs mots pour nous nommer. Mais bon, je vais garder celui-là pour l'instant. Des minorités visibles dans les médias français. Et l'émergence des réseaux sociaux, ça a créé un climat qui fait que plus personne en France aujourd'hui ne peut dire qu'il n'y a pas de racisme, qu'il n'y a pas de discrimination à l'accès à l'emploi, qu'il n'y a pas de problème relatif à l'acceptation en fait de l'autre dans sa différence supposée physique ou culturelle.
Il reste encore malgré tout des progrès à faire. Selon le magazine en ligne Slate, en 2013, seulement 5% des mannequins montrés dans les magazines Vogue et Glamour étaient noirs ou métis. À la télévision, selon le CSA de la diversité, on compte seulement 16% d'individus qui ne sont pas blancs. Le chemin de la représentation des femmes noires reste encore long à parcourir.
Bah oui, il est encore long. Et là, la question de l'héritage, elle est super importante. Quand Laura Nsafou, là, qui vient de prendre la parole, raconte cette scène dans une boutique, dans un magasin, où sa mère ose s'élever contre un acte de racisme ordinaire, la petite fille a honte sur le coup. Mais ce qu'elle retient, ce avec quoi elle repart, c'est que sa mère, c'est pas quelqu'un qui baisse la tête. Et aujourd'hui, l'héritage, c'est nous qui sommes en train de le construire. Pour nos enfants, ceux qui sont déjà nés ou ceux à venir. Et pas simplement les enfants noirs, mais les enfants de tout ce pays. Parce qu'on est un pays multiculturel. On est un pays qui est mélangé, un pays qui est métissé du fait de son histoire. On n'a pas décrété, parce que nous on est nés ici dans les années 70, 80 ou 90, on n'a pas décrété que ce pays était multiculturel. C'est le fruit d'une histoire qui date d'il y a plusieurs siècles. Donc aujourd'hui, on a un héritage et il faut qu'on arrive à en faire quelque chose de positif, et ça passe aussi par les questions de représentation qui nous concernent aujourd'hui.
Roxane Niap, vous avez lancé votre librairie littérature il y a un tout petit peu plus d'un mois, c'est très récent. Alors on a un espace de coworking, un salon thé, et puis évidemment une librairie avec un grand espace qui est consacré à la littérature afro, c'est ça ?
Tout à fait.
Des catégories au sein même de cet espace, il me semble.
Oui, tout à fait, parce que c'était vraiment... c'est quelque chose... Moi, ça fait un petit moment que je fais ce métier. Et j'ai constaté, je pense que j'ai pas été la seule, que la littérature afro, elle est souvent... elle est souvent dans le petit bac que vous voyez à la FNAC, sous le cachet.
Dans cette grande enseigne culturelle qu'on cite beaucoup aujourd'hui.
Exactement. Ou alors, elle est... Voilà, tout est mélangé. Enfin, il n'y a pas... Et moi, je tenais vraiment à identifier, à ce que mes clients puissent identifier que il n'y a pas une littérature afro, il y en a plusieurs. Et donc effectivement, dans mon espace, on retrouve, il y a un rayon littérature africaine, un rayon littérature afro-péenne, afro-américaine, d'outre-mer et afro-caribéenne. Et d'ailleurs, c'est aussi parce que je n'ai pas encore assez d'espace, mais la logique voudrait que le rayon littérature africaine, en fait, n'existe pas. Par exemple, en librairie, vous n'avez pas de rayon littérature européenne. Ce qu'il faudrait, ça serait vraiment
par
un
pays,
rayon, voilà, Afrique de l'Ouest.
Ou par région.
Exactement. Donc, mais bon, je fais ce que je peux à ma mesure, on va dire. Donc,
Et avant de lancer cette librairie, vous travaillez aussi dans une autre enseigne culturelle. Et vous aviez tenté à ce moment-là d'organiser des rencontres autour de la littérature afro. Et à ce moment-là, je crois qu'on vous a accusé de communautarisme.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qui revient. C'est souvent, en fait, le commentaire qui revient très souvent chaque fois qu'une initiative, en fait, pour amener de la diversité, que ça, qu'elle soit médiatique ou qu'elle soit littéraire, c'est très souvent le commentaire qui est lancé. À l'époque, ça m'a énormément blessée parce que déjà, à la base, mon initiative, elle était c'était vraiment en toute logique, au sens où je ne comprenais pas comment un si grand magasin, comment une si grande enseigne qui reçoit quand même des milliers de clients par jour pouvait par exemple avoir un grand rayon. Vous trouviez, par exemple, si vous cherchiez de la littérature allemande ou de la littérature américaine, vous aviez tout ce qu'il faut, et n'avoir absolument aucun rayon de littérature africaine. C'est-à-dire que ça n'existait pas.
Pour vous, ça vous semblait logique d'avoir cet espace-là.
D'avoir toutes les littératures en fait offertes. Et effectivement, quand j'ai essayé d'amener cette proposition-là, le commentaire, ça a été ça.
Roxane Niap, Laura Nsafou, Diaria Toukébé, vous restez avec nous en compagnie d'Aïssa Maïga. On vous retrouve juste après le flash d'infos sur RFI. A tout de suite, dans 3 minutes.
Le 8 mars,
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisines et de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous donnons la parole à des femmes engagées, aujourd'hui lassées de se voir discriminées du fait de leur couleur de peau et de leur sexe. En ce 8 mars, journée consacrée aux droits des femmes, toute la journée sur RFI, nous sommes en compagnie de la célèbre comédienne Aïssa Maïga, grande figure à laquelle s'identifient de nombreuses femmes noires en France, en manque de représentation dans les médias, dans le cinéma, la littérature et j'en passe. Alors pourquoi un tel déficit de modèles ? Le combat des femmes noires pour leurs droits en France et ailleurs passera-t-il par la culture? Il semblerait que oui, c'est en tout cas ce qu'ont l'air de répondre nos invités. Roxane Yap, vous avez ouvert votre propre librairie dans les Hauts-de-Seine, une librairie afro-militante. Diaria Toukébé, vous publiez le livre Maman Noire et Invisible aux éditions La Boîte à Pandore. Lorraine Safou, plus connue sous le nom de Mrs. Roots, blogueuse engagée. Et puis bien sûr la scintillante Aïssa Maïga aux manettes de RFI aujourd'hui. Les voisins, c'est les trop. Voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71. Et on va laisser tout de suite la parole à une voisine qui est à Dakar, Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Charlie.
On vous écoute.
Bonjour à votre invité.
Bonjour. Bonjour Anne. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent au Sénégal.
Ah, bonjour à vous.
Vous êtes féministe Anne, je crois.
Pardon ?
Je crois que vous êtes féministe. On vous écoute.
Oui, je suis féministe. Et aujourd'hui, en cette journée du 8 mars, je vais commencer par féliciter toutes les façons de célébrer cette journée. Dans certains pays, notamment la France, pour célébrer le féminisme, certaines femmes montrent leur sein, ce qui est une façon assez symbolique de montrer sa féminité.
Ce sont les femmes qui font ça.
Oui, les femmes, exactement. Hier, le 7 mars, c'était la journée nationale de la femme sénégalaise.
Mmh.
Oui, parce qu'il y a de cela des années, 1820, des femmes de mer se sont suicidées pour échapper à l'esclavage.
Au Sénégal.
Au Sénégal, oui. Elles ont préféré se donner la mort plutôt que de se voir torturées, malmenée, et ce qui est un geste assez vraiment symbolique pour nous, ici au Sénégal.
Mmh. Pour vous, c'est une lutte qu'il faut encore célébrer aujourd'hui.
Oui, qu'on a célébré hier.
Et vous, comment s'exprime votre féminisme à vous, alors ? Comment vous êtes féministe ? Comment vous comportez comme une féministe aujourd'hui ?
Aujourd'hui, moi, Charlie, je choisis de vivre, en fait. Je choisis de vivre pour mes rêves, de choisir de vivre pour mon bonheur, de ne pas me plier aux dictats de société machiste, de porter mon pantalon quand ça me chante, de porter une robe quand il fait chaud, de mettre le voile le vendredi en tant qu'une femme musulmane, de me raser la tête, de mettre une perruque, de prétendre à un emploi égal à un homme, à, bien sûr, si j'ai les qualifications nécessaires.
Pour vous, le féminisme prend toutes ses formes, en fait, hein, c'est ça. Merci, merci
il y a
beaucoup. Il n'y a pas une seule manière d'être féministe, c'est ça.
Oui,
d'être féministe. Merci, oui. Merci beaucoup, Anne, pour votre témoignage. Lorraine Safou, il existe évidemment un féminisme africain francophone. Quel dialogue d'un féminisme à l'autre, d'un continent à l'autre ?
Tout simplement, comme le disait Aïssa Maïga, on a quand même une population française qui est extrêmement diversifiée, mais même au sein de la communauté afro, on a plusieurs influences, que ce soit des influences d'un féminisme caribéen, avec les Antilles françaises notamment, que ce soit donc bien sûr d'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, bien souvent. Il y a quand même des échanges qui ont influencé les afroféministes en France, puisqu'il y a aussi la question de la manière de coordonner sa vie en tant qu'européenne et la tradition aussi qui se pose pour certaines afroféministes. Donc on est un peu le fruit de tout ça. L'afroféminisme en lui-même a beaucoup d'influence. C'est ce qui fait qu'on va aussi parfois se tourner vers des travaux de certaines féministes africaines francophones comme Mariam Abba ou encore le travail de Fatouma Khan.
Sénégalaise.
Voilà, sénégalaise. Ou encore le travail de Fatouma Takane qui aussi s'intéresse aux textes, aux traces laissées par les femmes d'Afrique francophone dans leur émancipation. J'en oublie encore.
Maria Maba, en tout cas, qui avait publié un roman, Une si longue lettre, en 79. Mmh. Déjà, ça remonte en manifeste pour le féminisme.
Oui, et puis surtout qui montre aussi d'autres manières en fait, d'aborder la question du féminisme dans un contexte donc, africain qui est différent de celui européen et qui est donc, répond à d'autres questions et d'autres réalités. Donc, l'afroféminisme en lui-même. Entretient un dialogue transcontinental finalement avec d'autres féministes que ce soit donc en Afrique francophone ou aussi des afro-brésiliennes, etc. etc.
Aïssa Maïga, pour vous, il faut faire un pont entre ces féminismes ?
De toute façon, je crois qu'en une seule chose, c'est à l'ouverture, de façon générale. L'ouverture aux autres, l'ouverture au combat des autres et, comme vous le disiez, aux ponts qui sont... Alors, en plus, on a la chance en tant que... Enfin, je vais parler que de moi, parce que je vais pas commencer à faire trop de généralités.
Vous êtes là
mais
pour ça, allez-y.
Venant de deux cultures d'abord en Afrique, du côté du Mali, du côté du Sénégal, ayant grandi en France, parlant l'anglais, ça fait que je me sens proche des luttes de beaucoup de gens sur cette planète, notamment, pas seulement, mais notamment des luttes liées à la diaspora noire, que ce soit sur le continent africain, en Europe ou aux États-Unis. Et par exemple, il y a une auteure qui a été fondatrice chez moi, qui est une auteure afro-américaine, qui est très connue, qui est prix Nobel de littérature, qui est Toni Morrison, et qui a forgé mon regard. Parce que, bon, d'abord, c'est une immense auteure, c'est une orfèvre de la littérature. Et c'est quelqu'un qui a su raconter l'expérience singulière des femmes noires américaines depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, avec toujours énormément de modernité, et surtout en étant capable de donner une résonance quasi universelle à ce combat-là. Et c'est ce qui d'ailleurs a fait la puissance et l'aura de son écriture. C'est ce qui a fait qu'elle a été reconnue dans le monde entier. Et je crois que nos luttes, si on doit les appeler comme ça, les luttes afroféministes, elles sont universelles. Parce qu'elles présentent des singularités qui entrent en résonance avec les luttes que peuvent vivre des femmes dans d'autres continents, que ce soit des continents plus éloignés de nous, comme le continent asiatique. Enfin, moi, je ne suis jamais allée quasiment pas aller en Asie, mais je suis certaine que, par exemple, dans la façon dont vivent leur féminité et la difficulté, en fait, d'accéder aux droits de certaines femmes asiatiques, il doit y avoir des ponts avec la réalité de ce que vivent des femmes en Afrique de l'Ouest. Si ce sont des femmes qui vivent, par exemple, dans des milieux ruraux, il est quasiment certain qu'elles sont aux prises avec les mêmes difficultés. Et on ne peut parler des difficultés qu'en partant de soi et en étant au plus près de ce qui nous anime. Et c'est là que les ponts avec les autres peuvent se faire.
Et puis surtout, il faut rappeler aussi que l'afroféminisme est un mouvement décolonial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une réhabilitation de nos identités sans réhabiliter même nos mémoires. Il y a tout un travail de transmission, on en parlait tout à l'heure. Et cette transmission passe aussi par ces dialogues avec d'autres continents.
Et certains reprochent aux afroféministes, à certaines en tout cas, un certain communautarisme. C'est vrai que l'afroféminisme, c'est un mouvement qui a différents courants, notamment un courant assez exclusif, qui considère que le collectif ne peut pas être ouvert ni aux hommes, ni peut-être aux autres groupes ethno-raciaux. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Laurent Safou ?
Pour moi, ça me fait toujours un peu sourire, parce que pour moi, c'est une question piégée. C'est-à-dire que la question n'est pas est-ce qu'il y a du communautarisme, mais qu'est-ce qui a poussé finalement des femmes afro-descendantes à se regrouper et finalement à cibler uniquement les oppressions qu'elles subissent, parce qu'il y avait déjà un manque, en fait, un manque par rapport à l'écoute, par rapport à un agenda militant ou même culturel ou même historique de parler des problèmes qu'elles rencontrent. Donc bien sûr, pour moi, comme je dis souvent...
Vous l'assumez.
Voilà, je l'assume totalement, et puis surtout, je pense qu'il y a d'autres communautarismes qu'il faut dénoncer avant de s'intéresser justement à celui des afro-descendantes.
Diariatou Kébé, vous écrivez dans votre livre, je suis multiple et je suis loin des stéréotypes qu'on colle aux personnes noires. Je ne suis pas femme de ménage, je suis allée à la fac, je ne vends pas de drogue. Ces préjugés, vous les ressentez au quotidien ?
Oui, malheureusement. C'est quelque chose qui est appliqué souvent aux femmes noires, afrodescendantes. Quand on en rencontre une, on a tout le temps des préjugés sur la façon dont elles vivent, la façon dont elles pensent. Par exemple, la notion de communautarisme, si on décide de parler exclusivement des femmes noires, ou plein de préjugés qu'on nous applique dès qu'on ose ouvrir la voie en fait.
Et vous écrivez aussi que vous ne voulez pas être considérée comme une victime.
Non, parce que je suis le fruit de décisions qui ont été prises bien avant ma naissance. Du coup, j'expose seulement des faits. Donc, je me sens pas victime quand je parle de ma vie, parce que c'est une réalité. Donc, voilà.
Et vous vous engagez, d'ailleurs, c'est aussi votre combat, Roxania, pour la promotion d'une littérature jeunesse qui prenne plus en compte la diversité. Alors, pourquoi ? D'où vient cet engagement ?
Comme le disait Aïssa Maïga, l'ouverture. La question de l'ouverture, elle est très, très importante, surtout quand on a un enfant non blanc en France.
Vous avez un fils de 6 ans.
Oui, j'ai un fils de 6 ans. La question de la littérature jeunesse, c'est comme celle dont parlait Roxane sur la littérature africaine. Elle est peu mise en avant, surtout quand elle est diversifiée. Et le gros problème, c'est que la plupart des héros sont blancs. Des petits garçons blancs qui vivent des aventures avec leurs chiens. Qui ne représente pas du tout mon fils, par exemple, qui est noir et qui lui aussi aimerait avoir des aventures et aimer. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une ouverture au possible contre les perspectives limitées.
Et ce, dès l'enfance, voilà. Aïssa Maïga.
En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que le processus d'identification, quand on écoute une histoire qui est bien racontée, il se fait. J'ai regardé des tas de films quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente ou encore aujourd'hui, avec des gens qui ne me ressemblent pas, qui sont des hommes, qui sont des gens qui ont vécu à d'autres époques, et je m'identifie. Le problème, c'est que ce soit univoque et que ce soit la seule façon de pouvoir se regarder, c'est-à-dire dans un monde où on a l'impression d'être transparent.
Oui, tout à fait.
Et donc c'est pour ça que pour moi, ça n'est pas une question de communautarisme, ça n'est pas une question de renfermement sur soi. La question, c'est de savoir est-ce que la société française est capable aujourd'hui de s'ouvrir à toutes ces réalités.
Exactement, parce que l'universel, on a l'impression qu'il est blanc, alors que c'est pas du tout.
Oui, et puis il y a un changement de narration en fait qui est primordial si on veut.
Oui, c'est ça. C'est aussi de prendre la parole pour parler aussi de vous finalement. Roxane Niap, on a aussi dans la littérature jeunesse des figures peut-être d'enfants noirs, mais qui ne sont pas en France en général, qui sont plutôt sur le continent africain.
Tout à fait, qui ne sont pas habillés aussi. La plupart du temps, les parents que je reçois, ou en plus il y a une demande qui est énorme là-dessus. Et sont la plupart du temps français, élèvent donc un enfant noir français, et donc l'enfant en question ne va pas du tout se reconnaître dans typiquement Kirikou. Voilà, c'est vraiment il serait temps peut-être d'arrêter de ne proposer que ça comme type de visuel et de vraiment savoir mettre en scène, et ça ne concerne pas que les enfants noirs, ça concerne les enfants asiatiques, enfin ça concerne tout type d'enfants.
Les enfants non blancs, en fait.
Plus on est jeune et plus on a besoin aussi de savoir se reconnaître. Après, moi je voudrais quand même à nouveau rebondir sur la question du communautarisme, parce que c'est un mot qui me fâche beaucoup, de la même manière que je me suis fâchée quand mon collègue s'est permis d'employer
dans
ce terme
dans le magasin culturel où vous travaillez,
à 2 mètres de l'auteur qui était en train de faire sa dédicace devant son public. Je tiens quand même à poser la question que j'ai rarement entendu des personnes s'insurger. Ah, il y a quand même beaucoup de communautarisme blanc, c'est souvent c'est trop là, il y a une forme quand même de déni qui consiste à dire dès qu'on sort un peu de ce qui est proposé habituellement, ah oui, mais non, là,
oui, on parle effectivement moins de communautarisme blanc.
Voilà, exactement.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans quelques instants après une chanson que vous avez choisie, Aïssa Maïga, Down, du groupe Haute. A tout de suite. Push no trust. Yeah. You're bigger now. Keep your head off the ground. You're bigger now. Keep your head off the ground. You're upset, yeah. But it's getting late. What good is this? Oh,
And use all of my fears to break them down, 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 down. To break them down, 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 down. I hear them too, howling at your feet.
Yeah.
Though these wolves sure are hungry, who are we to take feed? I'm building these walls. It's taken so many years. Who are you to come near?
Les voisins, les voisines, vous continuez de nous écrire sur Facebook. Je vais vous lire quelques messages. Celui de Louisa qui nous écrit de Lomé au Togo. Peut-on imaginer une convergence des luttes féministes des femmes de toute l'Afrique? Nous aurions beaucoup à y gagner. Alors je crois qu'effectivement on peut l'envisager, hein, à vous entendre Laurent Safou. Bertrand qui nous écrit de Yaoundé au Cameroun. Je suis d'accord avec la lutte pour l'évolution des droits des femmes. Mais le problème est que vous vous comparez trop aux hommes. Et si l'homme perdait tous ses droits que vous lui enviez tant, vous battriez-vous pour les aider à être votre égal? Laurent Safou, vous avez l'air sceptique. On n'en est pas encore vraiment là, hein, aux hommes qui vont perdre leurs droits.
Et N'ayez pas peur,
le conseil d'Aïssa Maïga. Et nous sommes en ligne avec une voisine, Farida, qui est à Lomé, au Togo. Bonjour Farida.
Bonjour Charlie, bonjour à tous les invités.
On vous écoute. Bonjour.
Pardon?
On vous écoute. Vous êtes féministe, vous aussi, je crois.
Oui, oui. Enfin, je me considère comme une féministe. J'ai grandi beaucoup à l'extérieur. Donc j'ai été exposée à beaucoup de différentes manières de penser, etc. Au fait, moi, c'est pas... Enfin, c'est plus un féminisme. Genre, je me dis que pas aujourd'hui, toujours, parce que les inégalités contre les femmes, c'est un truc générationnel, pardon. Et que même à mon âge, il y a toujours de ces petits commentaires, etc., que j'entends tous les jours, surtout sur le campus, quand je vais à l'université de Lomé.
Par exemple, quel commentaire?
C'est plus genre, c'est pas mes camarades, certains d'entre eux qui se sentent menacés quand ils entendent une fille intelligente ou quelque chose parler, tout de suite, c'est tu te prends pour qui? Et puis après, dès qu'on leur fait une remarque là-dessus, c'est tout de suite, je vais te gifler, des trucs comme ça. Je leur remets à la pluie, ils prennent ça comme pour blaguer, mais tout de suite, je leur remets à leur place. Non, c'est pas un genre de truc qui se dit juste parce que tu te sens inférieur ou quelque chose comme ça. Et aussi, les garçons qui tout le temps sont en train de tirer les filles, les tenir les bras pour les emmener quelque part, je suis complètement comme ça parce que, toutes les jugements d'abord qui sont faits aux femmes, les femmes ont le droit à leur corps et à choisir qui peut leur toucher ou pas, ou pourquoi, etc. Quoi.
Vous êtes étudiante, hein, vous avez 23 ans. Merci pour ce témoignage, Farida. Issa Maïga, ça vous a fait sursauter cette peut-être violence verbale qui peut s'exprimer?
La violence banale du quotidien, en fait. C'est celle-là qui est la plus insidieuse. Parce que les choses spectaculaires, elles peuvent soulever des mouvements de manifestation, des prises de conscience, etc. Mais ces petites choses du quotidien, ces phrases, ces gestes déplacés. Et je pense que cette femme a raison. Il n'y a aucune raison de se taire. Parce que le silence, c'est le premier des poisons. Et c'est la première cause de perpétuation de ces...
Et puis notamment, là, comme Farida, être étudiante, réussir dans sa vie. D'ailleurs, on a aussi le témoignage de Babs à Abidjan qui nous écrit sur Facebook « La femme ne sortira définitivement de cette situation que par l'éducation. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Chers parents et futurs parents, ne soyez pas réticents. Mettez vos enfants à l'école, hein, y compris les filles. » Merci pour votre témoignage, Farida. Nous sommes maintenant en ligne avec Hassani, un voisin à Paris. Bonjour Hassani.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je salue tous les auditeurs d'RFI. Et je voulais surtout aujourd'hui, dans cette journée de la femme, d'encourager toutes les femmes du monde et de leur dire que, surtout pas qu'ils se sentent faibles. Et comme il a dit Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient.
Bah, merci pour
donc
ce...
La femme ne doit pas se sentir faible. Et comme il y a une voisine là tout à l'heure qui vient de parler de la violence, que ce n'est pas que les maris qui font la violence, mais aussi les États, la société. Mm. Que le fait de ne pas donner une égalité à tout le monde, le fait qu'il n'y a pas une égalité entre hommes et femmes,
donc dans les salaires,
une violence, puisque ça ne permet pas à la femme de s'épanouir, ça ne permet pas à la femme de se développer. Donc pour moi, c'est une sorte aussi de violence. Donc je voulais suggérer qu'il y ait une égalité aussi entre hommes et femmes. Merci beaucoup.
Merci à vous pour ce témoignage très encourageant. Hassani, justement, Hassani permet d'aborder une question qui est aussi intéressante, Laurence Safou. Quelle place pour les hommes noirs dans ce mouvement, dans cet afroféminisme?
J'en avais un petit peu parlé sur le fait que pour moi, la question n'est pas de... C'est à eux, en fait, de poser la question de comment ils peuvent aider. C'est pas aux féministes de savoir comment, où les situer, puisqu'on a déjà beaucoup de choses à faire, déjà.
Et que peuvent-ils faire, alors? Pour aider
Tout simplement, après ça dépend aussi de quel féministe on parle, mais même par rapport aux mobilisations, par rapport au fait d'être présent durant cette mobilisation ou de relayer la parole de femmes féministes ou afroféministes, quel qu'il soit, par rapport au fait de parler aussi aux hommes, parler transmettre en fait ces propos féministes à d'autres hommes et pas attendre qu'une femme se présente pour en parler, etc. Après, il y a bien sûr des plans plus concrets qui dépendent aussi des associations et des besoins. Mais je pense que déjà, j'insiste vraiment sur le fait que ça doit être une démarche. C'est à eux de demander comment ils peuvent aider et pas non de se contenter de se dire je vais aider comme ça ou je pense bien faire en faisant comme ça, ce qui arrive très souvent.
Et qu'est-ce que ce combat pourrait apporter aux hommes, à Issa Maïga? Peut-être qu'eux aussi ont gagné finalement.
Moi, j'ai deux garçons que j'ai élevés de façon naturelle dans des principes féministes. J'ai la chance que leur père le soit aussi. Et du coup, j'y vois plus de liberté, finalement, pour les hommes et un sentiment d'accomplissement, de justice, de respect de l'autre, de respect de soi. Et puis bon, dans nos sociétés, ça s'exprime d'une certaine façon, mais je crois que, par exemple, si on doit s'adresser aussi à nos auditeurs en Afrique, le fait que les femmes accèdent à l'éducation, le fait que les femmes aient des droits, qu'elles puissent y accéder, qu'elles puissent accéder à la santé, qu'elles puissent, accéder à l'éducation, ça leur permet de mieux élever leurs enfants. Ça leur permet d'avoir des enfants qui sont mieux éduqués. Donc c'est générateur de bien-être pour toute la famille.
Diaratou Kébé, dans votre livre, vous parlez du bienfait d'avoir des modèles positifs dans la famille, dans l'entourage, à défaut d'en avoir peut-être dans la culture.
Oui, comme on a parlé, la représentation, surtout en France, elle est moindre pour les femmes noires. Donc quand on a quelqu'un comme Aïssa Maïga, on prend.
J'espère ne jamais vous décevoir.
Oui, la pression que je pose sur vos épaules est importante.
Mais il y en a quand même. On va partager ça ensemble.
Il y en a d'autres, hein, Christiane Taubira, Imani. Enfin, il y en a, mais
dans la politique,
dans la chanson. Mais je trouve qu'il y en a pas assez par rapport à d'autres modèles américains qui sont elles sont superbes, hein, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui est du même qui soit proche de nos réalités, né en France avec des origines d'Afrique de l'Ouest, ouais. Voilà, un background qui nous ressemble, ça fait plaisir. Et donc oui, la représentation, les rôles modèles positifs sont importants parce que la plupart du temps, quand il y a cette représentation à la télévision, dans les séries ou au cinéma, c'est souvent des modèles qui sont négatifs. Mmh. On parlait des préjugés tout à l'heure. Quand il y a un garçon noir à la télévision, souvent ils vendent de la drogue. Enfin, c'est pas positif.
Mmh. Et dans la famille, c'est important de transmettre
quoi ? C'est les premiers à faire l'éducation. Du coup, il faut transmettre cette valeur, ils sont les premiers à promouvoir le fait d'être noir de façon positive, surtout par rapport aux cheveux quand on est une petite fille, ou par rapport juste à ses études, ou comme une blogueuse comme Laura, une comédienne. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est important dans les familles, de montrer que les premiers rôles modèles positifs, c'est les parents et ensuite la famille élargie.
Les parents qui peuvent réussir et qui donnent un exemple. Roxane Yap, ça peut aussi passer par la littérature.
Oui, beaucoup de choses passées par la littérature, beaucoup de choses essentielles. Mais moi, je suis totalement d'accord avec, avec Dia. Personnellement, mon père, par exemple, quand j'étais petite, refusait même que je tresse mes cheveux. Et je voyais toutes mes copines qui avaient des tissages, qui avaient les cheveux défrisés ou tressés. Et j'en voulais beaucoup à mon père, par exemple, d'être aussi fermée en fait, là-dessus. Et de dire, non, tu gardes tes cheveux naturels, ils sont très bien comme ils sont. Et maintenant que j'ai grandi, je le remercie beaucoup parce que c'est au moins un complexe que je n'ai pas de tous les complexes qu'on peut avoir quand on sort entre guillemets de la norme, de ce qui est considéré comme la norme, on va dire aujourd'hui. Donc oui, c'est très important et continuons de faire des livres où on se voit, où on peut se reconnaître, c'est extrêmement important.
Merci à vous, Aïssa Maïga. Je crois que vous marquez une petite pause dans la journée avant
d'aller manger.
C'est ça, avant de rejoindre le studio d'Afrique Midi. Bon courage pour le reste de la journée.
Merci
également à vous, Mrs. Roots. Laurent Safou, vous apprêtez à publier un roman à main nue. Merci aussi à vous, Diaria Toukebe, auteur du livre Maman Noire et Invisible. Et merci à vous, Roxane Yap, libraire. On invite les auditeurs qui sont en région parisienne à aller dans votre librairie littérature à Boulogne-Billancourt. Et merci bien sûr à vous, les voisins et les voisines. Je rappelle que vous pouvez retrouver notre dossier spécial consacré à cette journée des femmes sur le site internet rfi.fr. À bientôt, à demain, les voisins et les voisines.